Et maintenant, place au théâtre.
Aujourd'hui, c'est la radiodiffusion française qui pose le sujet.
L'ultime épisode de cette série consacrée à Molière se pose la question. En quoi Molière nous serait-il encore utile? Primo, pourquoi remplit-il toujours autant les théâtres?
Les gens viennent voir le misanthrope parce que ça leur parle de maintenant.
Alors, que nous enseigne Alceste dans le misanthrope au XXIe siècle? D'abord, de bien se souvenir qu'on ne peut pas tout dire si on veut vivre ensemble.
Je te dis, je joue Alceste. Point final, hors de question de jouer Philinte.
Mais attends, on a répété tous les deux chacun des rôles. Hein, c'est ça qui a été décidé, non?
Est-ce que c'était décidé que tu baises avec l'italienne? Non?
Qu'est-ce qu'il raconte? C'est qui cette italienne?
Non, c'est rien, il dit n'importe
non,
quoi.
Non, mais c'est qui?
Tu mériterais que je te casse la gueule.
L'ami du genre humain, l'incarnation de la générosité, l'homme qui partage les souffrances, mais qui boxe la terre entière.
Ah, mais lâche-toi!
Laisse-moi, je te dis!
Arrêtez, tout seul!
On est là!
Arrêtez, voyons! Arrêtez!
En ce début de siècle, 400 ans après la naissance de Molière, on peut se demander si son art de dénoncer les excès demeure audible en 2022. Il a passé sa vie d'artiste à se moquer des outrances, à pourfendre les radicalités ou à dénigrer les manipulateurs. Alors dans le monde qu'est le nôtre, assailli par les extrémismes, le complotisme et les fake news, quelle place Molière peut-il trouver? Comment son œuvre peut-elle nous aider à refaire société?
Alors qu'est-ce qu'on fait?
Nous allons parler du théâtre.
Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit.
Que l'on commence!
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Molière, le chien et le loup.
Molière, vous avez su infiniment nous plaire.
10e épisode, à quoi ça sert, Molière?
Splendide. J'ai froid. Je vais rentrer chez moi. Un médecin, vite, il faut un médecin.
D'abord, rappelez-vous bien et répétez-le autour de vous. Parmi les idées fausses qui circulent sur Molière, sa mort.
Il meurt ! Le vite, les chevaux ! Il meurt !
Molière n'a donc pas rendu l'âme sur scène, mais chez lui. Vers 21h, le 17 février 1673.
C'est pour un mourant.
Pour qui?
Monsieur Molière.
Il n'y a pas de prêtre pour Monsieur Molière.
Quelques jours plus tard, un prêtre de la paroisse de Saint-Eustache s'affairait autour du cercueil.
Mon Dieu, pourquoi que le curé tape comme ça sur le défunt?
Ben pour chercher le diable, parce qu'il est mort avant de se repentir.
Pauvre homme.
Ben, brave homme, oui, moi... Je vais l'accompagner.
Chasser le diable. Car en effet, le comédien en chef n'avait pas eu le temps d'abjurer son métier. Mais alors, avec Molière mort et enterré, que s'est-il passé ensuite pour le reste de la troupe?
Alors tout se succède assez rapidement. Le 17 février, il meurt.
Georges Forestier est historien.
Quelques jours de repos, si je puis dire. Et puis, la semaine suivante, on reprend une pièce, on rouvre le théâtre. Avec le misanthrope. Par bonheur, quand Molière préparait Le Malade Imaginaire quelques semaines plus tôt, pour avoir le maximum de temps, il avait donné le rôle d'Alceste au jeune baron qui était la vedette de la troupe engagée 3 ans plus tôt. Et puis, une semaine après, on reprend Le Malade Imaginaire parce qu'on a laissé ainsi le temps à La Tourillière, l'un des piliers de la troupe, de reprendre le rôle d'Argan. On joue 3 semaines. On arrive au relâche de Pâques et à ce moment-là, c'est la catastrophe.
Pâques, 1673. Messieurs Latorrière et Baron quittent la troupe. Mademoiselle Beauval et son mari les suivent. Ainsi, la troupe de Molière est rompue.
Et du coup, la conséquence, c'est que, après le relâche, ils ne reprennent pas, ils n'ont pas les moyens. Ils sont en train de négocier avec un acteur du Marais, du théâtre du Marais, pour reprendre les rôles de Molière. Mais pendant ce temps, ils n'ont plus de théâtre, ils ne jouent plus. Et Lully, qui demandait depuis 2 ans à Louis XIV et à Colbert un bâtiment royal pour pouvoir jouer gratis, et n'ont pas payé un très gros loyer dans son opéra, on lui dit, mais voilà, Le Palais Royal, il est équipé, il est libre, et donc on donne le Palais Royal à Lully. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a plus de troupes, ils n'ont plus de théâtre.
Je viens vous prévenir qu'il vous est interdit d'enlever sans autorisation les meubles et les décors avant l'inventaire.
Et pourquoi ?
Parce que les droits sur ce théâtre reviendront d'ici peu à Monsieur de Lully, qui prend ses précautions.
Mais malgré tout, ils vont se battre, ils vont reconstituer la troupe, ils vont fusionner avec les meilleurs acteurs du théâtre du Marais, et ils vont récupérer le premier opéra français créé, rue Guénégaud. Ils se retrouvent avec une nouvelle salle. Ils sont endettés jusqu'au cou, mais c'est reparti à ce moment-là. Donc c'est une grosse troupe, assez grosse troupe, puisqu'il y a les meilleurs éléments du Marais et les débris, mais de bons débris de la troupe de Molière. Il y a Lagrange, il y a Armande, il y a Catherine de Brie. Et donc ils recommencent. Et qu'est-ce qui va se passer? La concurrence va s'exacerber avec l'Hôtel de Bourgogne. Il n'y a plus que deux théâtres face à face. Et puis, en 1680, Louis XIV, qui avait songé, on lui prêtait cette volonté, après la mort de Molière, de faire fusionner les troupes françaises, décide de faire fusionner le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, donc la troupe royale et la troupe du roi, qui deviennent la troupe des comédiens français, le théâtre français, la Comédie française. C'est comme ça que, août 1680, apparaît la Comédie française, qui est donc issue des débris de la troupe de Molière.
À ce moment-là, le roi est à Lunéville, où il inspecte ses places fortes, parce qu'il a des soucis militaires.
Oui, c'est la guerre de Hollande.
Et c'est à Lunéville que Louis XIV donne l'ordre célèbre. Réunion des deux troupes rivales. Fondation de la Comédie française. Tu as les textes, Sébastien?
Oui, ouvrez l'enregistre ou Lagrange les a recopiés de sa main.
Sa Majesté, désirant de réunir les deux troupes de comédiens qui représentent dans Paris, m'a ordonné de leur faire savoir que son intention est de garder à son service ceux dont j'ai écrit les noms dans ce mémoire, Sa Majesté voulant qu'il soit exécuté dans tous ses points.
La Comédie française est donc née en 1680 sur la volonté de Louis le Grand. Un siècle plus tard, sous la Révolution,
silence ! Silence ! Silence !
La maison de Molière fut fermée par ordre du comité de salut public, et les comédiens emprisonnés, car jugés à la solde du pouvoir royal.
Allez. Vous trouverez bien un lit et une couverture.
Le journal Le Salut Public, dans son numéro du mercredi 4 septembre 1793, annonce l'arrestation de Muscade et de Muscadin, ci-devant pensionnaires du ci-devant Veto. Le ci-devant Veto, c'est le malheureux Louis XVI.
Eh bien, nous voici arrivés à notre 10e et dernière émission de notre série « La Comédie française sous le Consulat et l'Empire ».
À l'époque du Directoire, l'idée d'une réunion de la Comédie française était dans l'air.
Madame Sylvie Chevalet, bibliothécaire archiviste de la Maison de Molière.
C'est à tort qu'on l'attribue souvent à Bonaparte. C'est le ministre de l'Intérieur, François de Neuchâteau, et l'universitaire Maheiro. Bonaparte n'était pas là. Il était en Égypte et il n'est revenu qu'en septembre 1799. La Comédie française fonctionnait déjà depuis 3 mois.
Et puis, en août 1800, le premier consul Bonaparte décida d'offrir à l'État la maison de Molière et de rétablir une troupe de comédiens au service de son pouvoir.
J'aime surtout la tragédie, haute, sublime, comme la fête Corneille. Les grands hommes y sont plus vrais que dans l'histoire. J'aurais voulu seulement que nos poètes aient su faire cela pour les héros modernes.
12 ans plus tard, soucieux de tout réglementer, obsession impériale, Napoléon Ier s'est piqué de codifier tous les usages de la Comédie française. La légende propagande raconte que ça lui a pris à Moscou, en pleine campagne de Russie.
Et parce qu'il n'avait rien d'autre à faire, il ouvrit le portefeuille des affaires en cours. Et il en sortit au hasard un dossier. Et témoignage nouveau de la diversité des aptitudes de son génie, il rédigea d'un trait les statuts de la Comédie française. Décret qui prit le nom de décret de Moscou et qui probablement restera en vigueur pendant des siècles encore.
Statut napoléonien qui, en effet, régissent depuis 200 ans la vie de la Comédie française. Et celui qui occupe aujourd'hui le poste d'administrateur général a été élu en 2014.
Et il faudrait presque un lever de rideau pour accueillir Éric Ruff, acteur, metteur en scène, avec des talents de décorateur aussi, on le sait, à la tête de la Comédie française depuis l'été dernier. Bonsoir, Éric Ruff.
Bonsoir, merci de cet accueil.
Merci de vous arrêter sur notre plateau.
Éric Ruff, né à Belfort en 1969, partage avec Molière plusieurs choses. Fils de la bourgeoisie, il est devenu comédien, puis metteur en scène, même si le terme est anachronique au regard du XVIIe siècle. Et il est aussi le patron de la troupe. Une vraie vie parallèle.
Oui, je le vis dans une proximité essentielle, peut-être fantasmée hein, d'ailleurs, parce qu'il y a eu dans l'histoire de cette maison des administrateurs qui n'étaient pas comédiens, par exemple, et surtout qui n'étaient pas issus de la troupe. Mais sans doute que la figure de Molière, dans ce qu'on appelle la maison de Molière, sans doute que la figure de cet homme qui ne s'occupait pas que de son propre destin et qui en même temps partageait les difficultés qui sont les difficultés quotidiennes, j'allais dire de manufacture, qui était un soutier de ce sous-marin-là et pas forcément le capitaine au périscope, qui avait une connaissance de tous les rouages économiques, sans doute, parce qu'il fallait qu'il fasse manger tout le monde et que la rapidité de son écriture, l'abandon d'une pièce pour réinventer, choper un argument qui passait et qui était un peu à la mode et construire immédiatement quelque chose, voilà, il y a cette chose-là, et puis le fait que lui-même jouait. Donc ce compagnonnage, j'allais dire, est peut-être d'une manière fantasmée, mais c'est une demande de la troupe, d'avoir quelqu'un qui connaît le métier, quelqu'un qui peut comprendre l'angoisse d'un acteur, qui peut comprendre le refus d'un acteur, qui peut comprendre un enthousiasme immense d'un acteur, parce qu'il a été lui-même et qui sait à peu près sur quoi ça joue. Et il est vrai que à la Comédie française, tous les services ont un directeur. La troupe, qui est bicéphale parce qu'il y a les sociétaires dont l'autorité est tenue par la doyenne ou le doyen, actuellement c'est une doyenne, Claude Mathieu, femme admirable et une doyenne exemplaire. Et puis, il y a les pensionnaires qui sont, eux, comme salariés de la maison. Et en fait, le seul vrai directeur, j'allais dire, de cet ensemble d'artistes, c'est l'administrateur ou l'administratrice.
Mais vous n'êtes jamais pris de vertige. Je veux dire, ce petit gamin de Belfort qui est devenu comédien et qui a pris les habits de Molière, c'est pas vertigineux, parfois ?
Non. Non, c'est pas vertigineux, parce que... Et d'une, comme ça n'est jamais une chose que j'ai rêvé, je prends les choses très objectivement et très simplement. Et ces choses-là, finalement, j'ai jamais le temps de me dire « Waouh, je suis en haut du Mont Ventoux ». Voilà, je suis toujours dans les lacets. Je suis toujours comme ça, oh là là, où est-ce qu'elle est l'arrivée ? Il paraît qu'après ce tournant, il y en a un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Voilà, je suis ou dans cette ascension ou dans cette descente un peu vertigineuse, mais j'ai jamais le temps de m'arrêter en me disant « Waouh, absolument pas ».
Allô ?
Allô, monsieur Louis Seignier ?
Oui ?
Bonjour monsieur, ici le journal de Paris, Île-de-France, de la RTF. Je vous téléphone car ce soir, il y a un hommage rendu à Molière à l'occasion de l'anniversaire de Molière.
Oui.
De la naissance de Molière.
Oui.
Et je suis venu vous demander, à vous qui êtes le doyen de la Comédie française, de me dire quelques mots à ce sujet.
Ah, écoutez, vous savez que chaque année, on célèbre cet anniversaire à la Comédie française.
Oui.
Et que toute la troupe se réunit autour du buste de Molière à la fin de la représentation.
C'est cela. Ce soir, je crois qu'à l'issue de la représentation, c'est M. Jean Marchand qui prononcera l'hommage à Molière.
C'est pas un hommage. On lit simplement la page de Grimaret concernant la mort de Molière. Avant, vous savez que Molière s'est évanoui en scène au troisième giro de la cérémonie du malade.
Oui.
Et c'est cet événement-là que décrit le récit de Grimaret.
Monsieur Seignier, je vous remercie infiniment.
Je vous en prie.
Au revoir, monsieur.
Giro. Giro. Giro.
Bienvenue dans notre salle Richelieu pour le 399e anniversaire de la naissance de Molière.
Tous les 15 janvier, Éric Ruff, date anniversaire de la naissance de Molière, on raconte que les comédiens du français suivent un rituel. À quoi ça ressemble ce rituel au Palais Royal ?
Ça ressemble à une réunion d'une potacherie C'est insensé. Parce qu'en fait, bizarrement, on parle de la famille des acteurs. D'ailleurs, quand on parle de famille des acteurs, les gens pensent toujours que c'est donc des histoires de népotisme et de passe-droit. Pas du tout. La famille des acteurs, c'est qu'entre acteurs, on peut se parler très franchement, comme on se parle très franchement entre les membres d'une famille. Donc c'est plutôt des qualités de franchise, quelquefois musclées, qu'on peut se permettre. C'est dans ce sens-là que c'est une famille. Et donc cette famille, finalement, se retrouve très rarement au cours d'une saison. Ils se cooptent de spectacle en spectacle tout le temps, donc finalement ils n'arrêtent pas de se voir. Mais une réunion des 60 acteurs, mis à part certaines assemblées générales, où très souvent ce sont que les sociétaires et pas les pensionnaires, en fait, le 15 janvier, tout le monde est là. Donc il y a une espèce de joie, un peu de rentrée des classes. Il y a une grande joie, et ce qu'on fait, c'est qu'on répète un hommage à Molière, qui est un peu comme le défilé du ballet à l'Opéra de Paris. C'est-à-dire qu'on commence par les académiciens les plus jeunes, et puis on finit par la doyenne, et on se présente par vagues, comme ça. Et d'ailleurs, c'est une manière de se voir grandir, voire de se voir vieillir dans cette maison, parce que quand vous faites partie des premières vagues, bon, ben, voilà, vous êtes très jeune, et quand vous commencez à approcher de la dernière, c'est pas que ça sent le sapin, mais c'est que vraiment, vous sentez que vous êtes considéré comme, voilà, les grands de la maison, les plus importants, et puis finalement les plus lourds aussi, qui arrive à la fin. Et de temps en temps, on lit des textes. Souvent, on présente au public, ça c'est très joyeux, on présente au public les sociétaires qui viennent d'être cooptés dans la troupe des pensionnaires. On présente les pensionnaires, on présente les nouveaux académiciens. Donc, c'est une intronisation assez joyeuse, avec beaucoup d'applaudissements. Ça, les gens aiment beaucoup. Et en fait, comme on répète cette petite chose qu'on aimerait faire d'une façon extrêmement organisée, on n'y arrive jamais, puis finalement c'est mieux, mais on le répète avant la représentation, et ensuite, ben il y a tout le temps de la représentation, où les acteurs qui jouent le Molière du soir, évidemment, sont concentrés parce qu'ils jouent, et tous les autres sont dans toutes les loges, et ça gambade, et ça passe d'une loge à l'autre, et ça hurle de rire, etc., donc c'est un moment très joyeux. À chaque fois, quand on arrive au plateau, on est toujours saisi, quand même, par l'importance du moment. Il y a une importance symbolique, ne serait-ce que 60 personnes qui saluent 870 personnes, finalement. Alors, c'est des équipes disproportionnées, mais comme le plateau est rempli par 60 personnes, on a un peu l'impression d'une rencontre. C'est ce qu'on fait toute l'année, mais là, c'est visible. Il y a un groupe important de personnes qui fabrique des choses pour le bonheur d'un autre groupe important de personnes. Et ce vis-à-vis-là, il est assez impressionnant. Des fois, quand on chante la Marseillaise le 14 juillet et que la représentation est gratuite, c'est pareil, on rigole, mais on est toujours saisi d'un truc, en disant que ce truc républicain, dans un théâtre qui n'est pas soupçonné, justement, de tropisme politique, etc. Voilà, c'est une belle émotion le 15 janvier.
N'oublions pas que l'auteur et le comédien ne sont que l'instrument passager, charnel et périssable d'un art éternel. Certes, rien de ce qui touche l'homme Molière nous est indifférent et nous souffrons de ne pas le connaître davantage. Mais le comédien Molière disparaît, mais les personnages qu'il conçut et anima sur le théâtre demeurent. Ils sont toujours présents dans la mémoire des hommes. Ils sont mêlés à leur vie, ces fantômes souvent plus vivants que des vivants. Ils ont leurs secrets que nous essayons de percer en tentant à notre tour, nous les comédiens, de leur redonner la vie. Et d'autres s'y essayeront à leur tour, et d'autres encore, après que nous serons retournés en poussière.
Quand on est à la tête de la Comédie française, Éric Ruff, on est à la fois dépositaire d'une mémoire, notamment l'œuvre et la vie de Molière, évidemment, et on est aussi directeur d'une maison qui est un lieu de création artistique contemporaine.
Oui.
On est à un carrefour un peu spécial, mémoire, art contemporain.
Oui.
Comment est-ce qu'on fait rentrer l'œuvre de Molière dans ces deux exigences, dans ce carrefour un peu particulier qui est assez rare en vérité?
Alors, c'est ce que vous décrivez est exactement le travail de toute administratrice ou de tout administrateur. Chacun d'entre elles ou d'entre eux le font avec les moyens du bord, ses moyens personnels, le temps qu'il traverse, la générosité au nom de la tutelle et l'ambiance sociale qu'il y a à ce moment-là. Mais c'est exactement ça, vous le décrivez très bien. La salle, le foyer des artistes est tellement représentatif de ça, parce qu'à qui le visiterait, c'est une salle de musée, et à qui vient le soir voir les acteurs qui s'y préparent, c'est un gymnase. Donc on fait des trucs dans cette salle-là pour lesquels on serait immédiatement ceinturé par des vigiles dans un musée. C'est exactement ça la Comédie française. C'est dans ce lieu de mémoire, on fait une pratique contemporaine et absolument vivante. Et ce paradoxe-là, ou cette richesse-là, cette contrainte-là, elle est augmentée lorsqu'il s'agit de Molière. Évidemment, parce qu'on a un rapport en Molière, on s'oblige à des géniflexions qui, à mon avis, ne sont pas les bonnes, mais le classique Larousse est entré dans la tête de tout le monde, l'obligation de l'apprendre petit, d'y passer, comme une espèce d'épreuve initiatique, fait que tout le monde se dit, mon Dieu, et puis Molière a un nombre de quartiers, de fontaines et de maisons assez impressionnants, et de lycées et de collèges. Donc, on a du mal à le bouger. Donc, effectivement, quand on parle de Molière, on se dit, mais est-ce qu'on doit le respecter jusqu'à la dernière virgule, sachant pertinemment qu'en fait, il ne les a pas écrites, ces virgules-là. Donc, dans quelle liberté on se met? Et en plus, nous sommes logiquement les garants de ce répertoire-là. Donc, certains pourraient nous reprocher de le bousculer un petit peu. Moi, je pense qu'il faut le bousculer. Les notions de respect et d'irrespect au théâtre sont très intéressantes. Parce que finalement, respecter un auteur, quelquefois, c'est l'éteindre. Et essayer d'aller en chercher le muscle, c'est quelquefois le réveiller, ou en tout cas, continuer à le rendre contemporain et faire en sorte que les gens passent des soirées belles, riantes, ou en tout cas, éclairantes.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Alors, passons maintenant aux événements du temps présent. Toute l'œuvre de Molière pourfend les excès. On a vu au long de cette série que sa vie d'artiste est consacrée à rire des outrances, à dénoncer les radicalités. Or, le temps présent, le nôtre, est assailli par toutes sortes d'extrémismes. Donc, dans ce fracas d'excès, Molière est-il toujours audible ?
Oui, il est audible. S'il ne moquait que les tares de son époque, on le jouerait plus. Ou bien nous avons toujours les mêmes, d'une façon peut-être plus numérisée, mais c'est les mêmes. Ou alors, Molière, il travaille aussi, moi j'ai beaucoup travaillé sur le malade imaginaire dernièrement. Dans cette pièce-là, il y a un truc extraordinaire quand même, qui fait le fond de source de cette pièce, c'est le rapport à la mort. C'est qu'en fait, la pièce est émaillée de gens qui jouent leur mort. Louison fait semblant de mourir. Argan lui-même accepte de faire semblant de mourir pour voir la vérité des sentiments qu'a sa femme ou qu'a sa fille pour lui. Et ce truc-là, c'est quand même un fantasme de toujours, de tout le monde. Ça n'appartient pas à une époque. Pouvoir assister à son propre enterrement pour pouvoir voir quelle équipe était franche et quelle équipe ne l'était pas, c'est quand même un truc de dingue. Donc ça marche toujours. Et ensuite, les tares qu'il décrit, effectivement, c'est les mêmes. Je raconte très rapidement une anecdote. Lorsque je jouais Philinte, et dans cette première scène introductive, très belle, ma Philinte, je devais regarder une sorte de quatrième mur, en tout cas être face au public et prendre un long temps pour réfléchir. Comme quelqu'un qui a fait 10 ans d'analyse se dit comment est-ce que je peux expliquer ça à ce jeune couillon qui n'est que colère. Voilà, comment je vais trouver les mots. Je devais prendre un long temps comme ça et je reprenais la réplique en disant
« Demeure du temps, mettons-nous moins en peine et faisons un peu grâce à la nature humaine. »
Ça commençait par là et j'avais une longue tirade que je trouvais pas facile à porter. À chaque fois, je sentais bien en représentation que cette tirade-là, bon, les gens l'écoutaient d'une oreille un peu discrète, j'essayais de l'éclairer le plus, mais grammaticalement, syntaxiquement, elle n'est pas facile. Dans ce silence, tout d'un coup, il y a eu une sonnerie de téléphone. Donc, première scène, peu de temps après l'annonce pour les portables, donc les gens, oh, c'est pas possible, quand même, blablabla. Et puis une sonnerie ridicule et fortée, avec quelqu'un qui n'ose pas l'ôter et qui l'écrase dans son sac comme si ça n'était pas lui. Donc, ça dure très longtemps. Et j'attends. Je regarde vers cette personne-là, ça s'arrête. Silence, et je dis, des mœurs du temps, mettons-nous en peine et faisons un peu grâce à la nature humaine en désignant un petit peu la personne. Applaudissements. Et ensuite, j'ai eu le sentiment extraordinaire que toute la réplique suivante était d'une clarté absolue.
Ne l'examinons point dans la grande rigueur. Voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande roideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle et les communs usages. Elle veut au martel trop de perfection. Il faut fléchir au temps, sans obstination. Et c'est une folie, à nul autre pareil, de vouloir se mêler de corriger le monde.
Moi, je me disais, mais c'est fou, parce que si je pouvais demander à Clément de rajouter ça dans la mise en scène, ou si Molière avait eu des portables, je pense qu'il se serait beaucoup amusé avec cette chose-là. Donc ce rapport-là, il est tout le temps. Et puis Molière, quand même, il travaille que sur le rapport des pères et des fils, des filles et des pères, le rapport des couples, des belles-mères, etc., le rapport de l'argent, le rapport de nos peurs de la médecine, de nos peurs de la maladie, de nos peurs de la mort. Ça, je pense qu'on peut déjà se projeter dans 3 siècles, ça n'aura pas changé, cette chose-là.
Parlons de Philinte, justement, que vous avez donc joué en 2014 dans Le Misanthrope. Voilà pour moi un des personnages clés de l'œuvre de Molière, parce que ce personnage donne pratiquement une manière d'être en société. Hein. Il prône la tempérance, la modération, Philinte. Oui. À nouveau, Eric Ruff, est-ce que dans le monde dans lequel on vit, Philinte a une place? Est-ce que Philinte et sa philosophie de vie est audible aujourd'hui en 2022?
Je ne sais pas si elle est audible, qu'elle soit profondément nécessaire, oui. Voilà, c'est peut-être nécessaire parce que plus audible. Oui, bien sûr, le compromis sans la compromission, l'art de l'écoute, la tempérance, l'attention portée, l'acceptation des différences. Il est sûr qu'on aimerait bien... Alors là, j'ai la chance de vous rencontrer, j'ai le temps de parler, mais la plupart du temps, nous n'avons plus jamais le temps de parler. Il faut aller très vite, il faut faire des réponses courtes, parce que sinon ça n'est plus audible, et que Molière donne un long temps. Ce qu'il y a de magnifique en plus dans cette pièce-là, c'est qu'on sent bien que Molière fait partie des deux. J'ai toujours cette image du capitaine Haddock avec la bouteille de whisky, et puis il a un petit diable et un petit ange. Le diable qui dit « picole un coup » et l'ange lui dit « non, ça te fera pas du bien ». J'ai l'impression que le misanthrope, je vois Molière avec son ange et son diable. C'est-à-dire qu'on voit Molière qui a envie de tout foutre en l'air, on voit Molière qui est le misanthrope, qui a envie de partir au désert, qui a envie d'arrêter de s'occuper de tout, qui a envie d'arrêter de se gratter en devant parler avec des gens qui ne l'intéressent pas, en devant faire des choses, peut-être en écrivant des fins de pièces qui ne l'intéressent pas du tout et dont il sait que c'est pas bon, mais qu'il est obligé de le faire. Et puis ce Philinte qui est finalement, lorsque j'ai essayé mes costumes, Caroline de Vivez qui a fait ces merveilleux costumes, quand j'ai essayé mes costumes de Philinte, comme Clément était à la mise en scène, il venait, il m'a vu, il m'a dit « c'est un costume d'administrateur ». On a rigolé, quelques mois après, je suis devenu administrateur. Parce que, oui, Philinte est un personnage de gouvernant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut bien accepter une charge, mais qui sait très bien qu'acceptant cette charge-là, il va devoir mélanger ses pinceaux, il va devoir les colorer forcément de choses, porter des paroles qui ne sont pas forcément les siennes, porter une parole collégiale qui peut être grattante intérieurement. Donc, on a finalement une époque assez misanthrope. Les retours à la campagne après nos confinements, ce désir de se mettre sous des arbres dans une niche rurale et de ne plus avoir à accepter la complexité du monde. Oui, il y a effectivement ça. Et nous avons des gens, des dirigeants, des spécialistes, etc., qui essaient d'être Philintes et qui essaient d'expliquer que accepter certaines choses pour un bien futur est une nécessité. Voilà.
Alors, on en était à...
Mais ce flegme, monsieur, qui résonne si bien, ce flegme pourra-t-il ne s'échauffer de rien? Et s'il faut par hasard qu'un ami vous trahisse, que moi... Putain, mais c'est infernal! Ton truc, c'est infernal! Je coupe mon portable, moi, quand je répète! Alors tu fais pareil!
Non, mais t'as pas à couper ton portable, t'as juste pas de portable!
Si, j'ai un portable, mais personne n'a le numéro et personne m'appelle! Enfin, c'est pas possible, enfin! Ferme le portable! On répète Molière, quand même!
Oh, ouais, tu te calmes, hein? Le portable, voilà, je vais l'éteindre. Voilà. Ça va comme ça?
Je sais pas comment vous travaillez à Paris, mais c'est ahurissant. Portable sur Molière, maintenant. J'ai tout, j'en suis, moi.
Mais t'as qu'à prendre un flegme.
Alceste et Philinte, dans Le Misanthrope, ont suscité bon nombre de querelles et de polémiques. Et ce, dès le XVIIIe siècle, avec, entre autres, Jean-Jacques Rousseau, qui méprisait la pièce.
Mais Jean-Jacques Rousseau, il s'identifie au misanthrope.
L'historien Georges Forestier.
Donc, il s'identifie à Alceste. Et le fait que Molière fabrique un personnage pour lequel on peut prendre fait et cause parce qu'il se bat pour l'authenticité, la vérité, il dénonce les faux-semblants, mais en même temps, il est ridicule parce que il va à l'extrême de la dénonciation et il refuse toute vie en société. Ce qui va permettre à Molière d'intituler sa pièce le misanthrope. Et il se trouve que ce que va reprocher donc Rousseau à Molière, c'est d'avoir privilégié le point de vue du juste milieu, c'est-à-dire le point de vue des deux personnages que sont Philinte et Éliante, surtout Philinte, alors même que pour Molière, ce point de vue-là, c'est la pierre de touche qui permet de révéler la folie des personnages. Depuis l'École des Maris, dans toutes ces pièces, il y a un personnage qui représente le juste milieu, la voie, en fait, la voie de la raison, la voie des salons, c'est-à-dire ceux qui pratiquent un raisonnement fondé sur l'idée qu'il faut apprendre à vivre en société et que la sociabilité mondaine passe par une relative complaisance envers les uns et les autres. Or, la complaisance, au sens étymologique du terme, c'est le fait de tâcher de se plaire les uns aux autres pour pouvoir vivre en société de la manière la plus harmonieuse possible. C'est ça que représente Philinte. Et c'est ça que ne comprend plus Rousseau, parce qu'il ne fréquente pas les salons, il n'a pas fréquenté les salons du XVIIe, encore moins ceux du XVIIIe, où il a fait quelques apparitions, où il s'est senti maladroit, ridicule, etc. Donc, le point de vue de Molière lui est totalement étranger.
Voulez-vous maintenant me situer chronologiquement où nous en sommes à peu près? Je suis un peu perdu.
Eh bien, c'est un voyage dans le temps, du XVIIe au XXIe siècle. Et nous voilà arrivés au monde dans lequel nous vivons.
La campagne de vaccination s'accélère en France. 23 millions de personnes ont reçu la première dose, mais les anti-vax restent mobilisés. Leur colère a franchi un nouveau palier.
Molière fut le porte-parole de la modération. Ce fut son cheval de bataille. Alors peut-il nous être utile face aux radicalités que notre époque génère?
Le passeport sanitaire, ça a été mis en place par des nazis, monsieur. Et vous, vous êtes un journaliste qui est des collabos, c'est tout.
Bonjour madame, nous sommes Quotidien, l'émission Diane d'Arthez.
Est-ce que dans ce monde dans lequel nous vivons, Georges Forestier, est-ce qu'il y a une place pour la tempérance que veut prôner Molière dans ses œuvres?
En tout cas, je ne sais pas s'il y a encore une place, je l'espère, parce que j'essaie de véhiculer ça personnellement à mon modeste niveau, mais en tout cas, Molière, il est là pour ça. Et plus on jouera Molière, plus on apprendra cela. Parce que c'est une école de tempérance. Mais ce qui est assez amusant, c'est que Molière écrivait pour une tempérance qui était celle des salons, puisque son public, c'était le public mondain, et que le public populaire n'avait pas accès à ses pièces, et que donc il ne leur parlait pas. Et que on a complètement changé de civilisation, qu'on est à l'opposé de cette civilisation-là, mais que précisément, sa puissance est telle, sa puissance de comique et de raisonnement intelligent sans donner de leçons jamais, est telle qu'il est encore là pour nous apprendre la tempérance sans donner de leçons, c'est-à-dire à travers le comique. Il se trouve que Molière, me semble-t-il, par la puissance avec laquelle il a joué sur les comportements de ses contemporains, que ce soit les dévots, les pédants, etc., avec la manière dont il a joué avec les valeurs de ses contemporaines, dont certaines se retrouvent de notre temps, eh bien, il a accédé à quelque chose qui est l'éternel humain, en fait. C'est ça qui est formidable avec lui, c'est que, en se moquant par le ridicule du comportement des pédantes dans Les Femmes Savantes, ou d'un Tartuffe qui est un prosélyte de la religion, ou bien d'un Arnolphe qui cherche à continuer à imposer le comportement patriarcal issu de, fondé sur la conception du mariage catholique, eh bien, il est évident qu'en fait, il montre des personnages qui s'enferrent dans des aveuglements, dans des illusions, qui déforment les valeurs qui pourraient faire vivre la société de façon harmonieuse au profit de valeurs rétrogrades. Eh bien ça, ça vaut encore pour aujourd'hui. Les mêmes personnes sont toujours là, avec des enjeux un peu différents, pas toujours beaucoup différent.
Aulnay-sous-Bois, c'est une petite banlieue entre Paris et Roissy, au nord-est de la capitale.
Notre périple depuis le XVIIe siècle nous conduit maintenant jusqu'à Aulnay-sous-Bois. Pourquoi Aulnay-sous-Bois ? Périphérie du nord parisien, emprise depuis 30 ans avec la panoplie des violences sociales, la société s'y délite sous les assauts de la misère. Alors que diable vient faire Molière dans cette galère ?
Alors, je m'appelle Mathilde Lévesque et je suis professeure de lettres au lycée Voilôme à Aulnay-sous-Bois depuis 10 ans.
Et cette année, vous avez choisi de travailler sur Molière et sur le Don Juan. Pourquoi vous avez choisi ce texte qui n'est pas évident ?
C'est une pièce qui croise des problématiques qui les intéressent eux, qui sont encore d'actualité, et ça permet aussi...
Lesquelles alors, par exemple ?
Bah, la question, par exemple, de la place de la religion, du statut du blasphème. Ça permet de donner un ancrage historique et une mise en perspective de choses qu'on peut retrouver actuellement hein, dans leur univers de référence à eux. Voilà, d'expliquer pourquoi, oui, on peut parler de blasphème au XVIIe, et plus en 2021, en France en tout cas. Voilà, la censure, c'est quelque chose qui les intéresse vraiment. Et en fait, on peut pas étudier Don Juan sans avoir parlé de Tartuffe, puisque Don Juan est une réponse à Tartuffe, enfin à la censure de Tartuffe, plus exactement.
Qu'est-ce qu'ils comprennent alors de ce texte ? Qu'est-ce qu'ils retirent ?
Moi, je trouve que c'est ça leur force. Hein. Ils sont jeunes, ils ne lisent pas, hein, comme la plupart des gens de leur âge. Mais ils ont perçu, sans aucun cadrage en amont de ma part, ils ont perçu qu'il y avait une distance critique de Molière à l'égard de la pièce. Et que, en aucun cas, Don Juan était un éloge de Don Juan. Ils l'ont perçu et ils m'ont fait des analyses lors du contrôle de lecture, m'expliquant, certains m'ont mis que Don Juan était un personnage détestable. C'est quand même des élèves qui ont une profonde notion de ce que c'est que la morale, de ce que c'est que l'honneur, de ce que c'est en fait que des espèces de lois prescriptives ou proscriptives, que ce soit du point de vue de la religion, même si ça les regarde, mais ils les ont quand même, ou du point de vue de la loi. En fait, là-dessus, ils sont un peu à l'ancienne hein, sur la question du respect des valeurs morales. Ça les fait pas rire, eux, par exemple. Voilà. Alors si la scène de patois, Charlotte et Mathurine, mais il y a quand même un fond derrière de voilà, ça se fait pas. Pour moi, ils ont lu Don Juan vraiment comme il faut le lire.
Je fais le pauvre. Tu fais Don Juan ?
Ah ah, je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer.
Ah, monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché ?
S'il vous plaît, moi pas.
Qu'est-ce qu'un péché ?
C'est quelque chose de mal.
C'est déroger une loi religieuse.
C'est enfreindre effectivement une loi ou un précepte religieux. Exemple de péché ?
Mentir.
Voler, mentir. Beaucoup de péchés sont aussi des infractions à la morale. Mentir, ça peut être un problème par rapport à un cadre religieux, mais c'est aussi un problème par rapport à un cadre moral, le mensonge. Molière est un nom que 100% des élèves connaissent en arrivant au lycée, alors que par exemple, ils ont souvent fait Antigone d'Anouilh. Et Anouilh, voilà, ils se souviennent d'Antigone et que la couverture est orange, mais Anouilh non. En revanche, Molière, ça, ils s'en souviennent. Et ça, c'est quelque chose qui serait intéressant, je pense, à étudier en pédagogie, de savoir pourquoi ce sont ces mêmes choses qui restent chez tous les élèves année après année. Mais en tout cas, Molière en fait partie. En fait, Molière leur est familier, quoi. Il est là. Et jamais, moi, ça ne m'est jamais arrivé, quelle que soit la pièce de Molière que j'ai pu étudier en cours, ça ne m'est jamais arrivé qu'un élève me dise « on comprend rien ». C'est quoi cette langue ? Vraiment jamais. Voilà, donc je pense que quelque part dans l'inconscient, ils ont intégré que la langue de Molière, c'était la langue de Molière, que c'était comme ça, je sais pas, mais vraiment, il n'y a pas de problème d'interprétation ou même de compréhension, on va dire, au sens quand même global, hein, d'une tirade ou d'une scène, avec Molière. Et je pense que c'est parce que eux sont habitués à Molière et qu'ils n'abordent pas le texte en se disant « on va rien comprendre ».
Parmi les anciens élèves de Mathilde Lévesque, une jeune femme au prénom sublime.
Je m'appelle Shahrazad Bengana
J'ai 21 ans et je suis en licence 3 de lettres modernes à Paris 4.
Scheherazade, ou les vertus de l'école républicaine.
J'ai fait 3 ans de prépa et avant ça, j'étais au lycée Voilôme à Aulnay-sous-Bois, dans le 93. Voilà.
Et alors, toi, quel rapport tu as avec Molière ?
Molière, c'est un auteur que j'ai connu au collège, comme la plupart des élèves, je pense. C'est un auteur qu'on étudie beaucoup, que j'aimais pas forcément au début, parce que c'est un peu... C'est un peu compliqué de lire des pièges, je pense, au collège habituellement, mais c'est plus au lycée que j'ai commencé à apprécier Molière. Je pense qu'au collège, on a du mal à lire du théâtre. Je pense que le théâtre, c'est de la littérature qui se voit, en fait, qui se regarde. Je pense que c'est très dur de lire du théâtre. Et c'est ce qu'on devait faire. On devait lire des pièces, mais comment lire une pièce si on n'a pas vu de pièces de théâtre en vrai, en fait. Et c'est pour ça que j'avais aucun apport. Enfin, il m'apportait pas grand-chose, quoi. Je comprenais pas forcément ce qu'il voulait dire par ce qu'il faisait. La satire, on la comprend après, en fait. Que c'était des moqueries, il se foutait de tout le monde, en fait. Et ça, c'était fort de le comprendre au lycée. J'aimais beaucoup le fait qu'il soit près du roi, mais qu'il critique mais absolument tout ce qui se passe, en fait, autour du roi, dans la cour. Je trouvais ça incroyable, ouais.
Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je voudrais laisser tomber à ses pieds.
Fort bien.
Cela sera galant, oui.
Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire ?
Non, non, point de vers.
Vous ne voulez que de la prose ?
Non, je ne veux ni prose ni vers.
Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre.
Pourquoi ?
Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers.
Il n'y a que la prose ou les vers ?
Non, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose.
Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela ?
De la prose.
Ben quoi, quand je dis « Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit », c'est de la prose ?
Oui, monsieur.
Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien, et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela.
Tu te souviens des pièces que tu avais étudiées au collège ?
Bah, Le Bourgeois Gentilhomme, et je l'ai étudié 2 fois, donc la première fois j'ai détesté. Parce que je comprenais pas, en fait, c'était compliqué pour moi de comprendre une pièce sans la voir, en fait. Et c'est après l'avoir vue que j'ai compris ce qu'il voulait faire, en fait.
Tu l'as vu où ?
Je l'ai vu au théâtre de ma ville, à Jacques Prévert, à Aulnay-sous-Bois. J'avais 14 ans, je crois, quand je l'ai vu. Et je l'ai vu avec ma mère et j'avais adoré.
Donc, avec ta famille, tu allais au théâtre ou au spectacle ?
Alors, c'était très rare. C'est moi qui avais forcé ma mère parce que je voulais, du coup, voir une pièce de Molière. Mais je pense qu'elle aussi, elle voulait voir ce que ça donnait. Et c'était la première fois que j'allais au théâtre avec ma mère et je crois la dernière. je crois que ma mère n'a pas été autant touchée que moi par cette pièce. Elle en a ri, mais peut-être pas autant que moi. Je pense qu'il y a plein d'aspects dans la pièce que je comprenais mieux qu'elle, notamment par le biais de la littérature que j'étudiais. Enfin voilà, ça m'avait plus touchée qu'elle, mais moi j'adore cette pièce. C'est la pièce qui me fait le plus rire de Molière. J'ai beaucoup ri en la regardant. Voilà.
Parce que ta maman, elle fait quoi dans la vie ?
Alors ma mère, elle s'occupe des enfants à la maternelle. Elle s'occupe d'eux pendant la garderie. Donc elle n'a pas de rapport direct avec la littérature. Ma mère lisait et lit encore quelques livres. Ma mère était une grande fanatique de Zola, d'Émile Zola. Elle m'a fait lire Germinal quand j'étais très petite. Et ça l'a beaucoup marqué que je continue à lire et que j'aime ça et que j'en fasse mes études en fait.
Donc il y avait des livres chez toi ?
Pas beaucoup, mais il y en avait, ouais. Il y en avait, et puis je forçais ma mère à chaque brocante pour acheter tous les livres que je voyais. C'était la chose qu'elle me refusait jamais, c'était les livres, ouais.
Asseyez-vous, je vous en prie. Bon, bah, c'est avec une grande émotion que je vous reçois dans cette salle, qui, pour nous, avocats, a une résonance très particulière. C'est ici que vous défendrez, accuserez, tenterez de convaincre, et... Selon la règle, je vais maintenant vous révéler le sujet de votre débat pour la finale du concours d'éloquence de la petite conférence. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France ? Vous devrez être convaincant et éloquent. C'est sur ces deux critères que vous serez jugé. Je vous laisse vous imprégner des lieux.
« toi, donc tu fais des concours d'éloquence.
Oui.
Est-ce que tu penses que ça t'a nourri d'avoir connu des pièces de Molière, les avoir lues?
Oui, complètement. La satire, enfin, il le fait très bien, la satire, et il sait très bien se moquer sans non plus insulter, sans non plus le dire directement. Et je pense que l'éloquence, ça joue aussi beaucoup sur ça, c'est de faire valoir des arguments sans être trop direct, sans être trop méchant, mais de tourner autour. Mais tout le monde sait ce qu'on veut dire, mais en fait, on ne le dit pas directement, et donc on ne peut pas se faire attaquer sur ce qu'on dit, puisqu'on ne le dit pas, en fait. Et ça, je trouve ça très fort venant de Molière, et je pense que oui, forcément, ça induit quelque chose en moi, ouais.
Et tu as des personnages en particulier qui t'ont frappé, femme ou homme?
Monsieur Jourdain, évidemment. Monsieur Jourdain, qui pour moi est l'hypocrisie en personne et puis la naïveté en personne, quoi. C'est le personnage qui croit au fait qu'il peut être transclasse et qu'il peut devenir quelqu'un d'autre rien qu'en imitant les autres. Et c'est faux. Et c'est lui qui m'a le plus marqué, je pense.
Mais toi, tu vas être une transclasse aussi.
Je pense que j'en suis une, oui. Malheureusement. Enfin, pas malheureusement. Je pense que j'en suis une. Mais je cherche pas à être quelqu'un que je ne suis pas, en fait. Je le suis par le biais de mes études et par le biais de ce que je deviens. Mais c'est extrêmement important pour moi de pas perdre de là où je viens, ne pas oublier de là où je viens et ne pas devenir quelqu'un que je pourrais détester.
Et est-ce que tu dirais que parmi les auteurs de théâtre français, c'est celui que tu connais le mieux?
Je pense que oui. Je pense que c'est celui déjà qu'on étudie le plus. Après, il y a Corneille, mais ça me plaît beaucoup moins. Ça me fait pas rire, c'est triste, c'est tragique, j'aime pas vraiment... Enfin, on comprend moins, en fait. Je pense que Molière, c'est très actuel, en fait. Le fait de se moquer d'une certaine hiérarchie, des rapports hommes-femmes, l'école des femmes. Enfin, c'est surtout des gros clichés de personnages qu'on peut retrouver à la télé, qu'on peut retrouver dans des figures politiques. Et c'est assez marrant de voir qu'ils se moquent beaucoup de personnes qui veulent accéder à cette classe élitiste et qui ne peuvent pas en fait y accéder. Et c'est assez marrant de voir ça. Et c'est pour ça que ça me parle, c'est de voir en fait ce jeu, quoi. Ce mensonge, cette hypocrisie en fait qu'on voit un peu partout, qui est extrêmement bien joué par Molière. Mais c'est ça qui est fou, et c'est pour ça qu'on l'étudie encore, et c'est pour ça que tout le monde aime Molière. C'est que 400 ans après, nous parle toujours, ça parle à tout le monde, en fait tout le monde peut se moquer de ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec la littérature, le théâtre, ça veut pas dire la même chose qu'à une certaine époque, mais ça veut dire d'autres choses en fait. De nous-mêmes, on crée une nouvelle interprétation de la pièce, et c'est aussi ça qui fait que Molière est éternel. Voilà. C'est aussi pour ça, je pense, qu'on dit la langue de Molière. Il y a des rimes qui restent, en fait, et qui nous parlent. Je pense qu'il aurait pu faire du rap, Molière. Je pense que ça passerait tellement... Il a un flow. Il a sa signature. Il a son style, quoi. C'est sûr.
Il ment plus qu'enfin, il a dû le prévoir. Et puisqu'il m'a forcé enfin à le vouloir. Et quoi ? C'est donc moi qui l'ordonne. Sa mort sera l'effet de la mort d'Hermione.
Hermione, Hermione, Hermione.
Évocateur de notre histoire, le Panthéon se devait de figurer au début de notre rubrique d'aujourd'hui, consacrée aux grands hommes de France.
À gauche, Victor Hugo, illustre poète, transféré au Panthéon le 1er juin 1885.
Pour conclure cette longue série d'entretiens avec vous, Georges Forestier, certains voudraient aujourd'hui faire entrer Molière au Panthéon. Alors, qu'en pense le biographe attitré de Molière de cette éventuelle entrée de Molière au Panthéon ?
J'ai rien contre, d'abord. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est pas nécessaire ? Parce que, pour moi, le Panthéon, c'est la patrie reconnaissante aux grands hommes qui sont en voie d'être oubliés. Les grands résistants dont plus personne n'entendrait parler aujourd'hui si on ne les faisait pas rentrer en grande pompe au Panthéon. Molière, lui, il n'est absolument pas oublié. Il a sa maison, qui est la Comédie Française, où on le joue de façon prolifique par rapport à tous les autres théâtres. Il a sa maison, où on le joue tout le temps. Il est joué à travers la France, sur tous les théâtres. Il est joué à travers le monde. S'il y a un auteur français qui est joué, c'est Molière. Bien sûr, il arrive loin derrière Shakespeare, mais ce n'est pas la même langue. Et donc, en quoi Molière aurait-il besoin d'entrer au Panthéon? Ça ne lui apporte absolument rien. Et je pense que ça le canoniserait tellement qu'il en perdrait de sa vivacité, de sa causticité.
Nous en arrivons maintenant au point final de ce chapitre consacré à la Comédie Française.
Nous approchons donc
de la fin de cette série. Et peut-être pourrions-nous terminer par la devise de la Comédie française. Devise frappée sur les jetons de présence des comédiens.
Tu connais la médaille ? Le jeton de présence des sociétaires qui fut frappé dans le bronze en 1682.
Oui, mon cher doyen. Sur une face, il y a le profil du roi, et sur l'autre, une ruche entourée d'abeilles avec cette devise « Simul et singulis ».
Ensemble et par chacun.
Ouais, c'est une belle devise. Hein.
Devise de la Comédie française, chère au cœur d'Éric Ruff, le patron de la troupe. Mais peut-on en faire un projet de société ?
Oui. On parlait du misanthrope d'Alceste et de Philinte, finalement. La devise de la Comédie française, « Simul », qui serait plutôt la phrase de Philinte et « Et singulis », que lui rappelle Alceste, c'est comment on arrive effectivement dans une société à faire en sorte que sa singularité soit fertile pour l'ensemble, ne soit jamais oubliée, qu'on ait l'espace de la cultiver, et qu'en même temps elle s'inscrive dans un projet collectif. C'est un rêve de société, c'est effectivement la devise de la Comédie française, la devise de la troupe, et il est vrai que lorsque je choisis un acteur, j'ai cette prérogative-là et cette responsabilité-là de choisir chez... des jeunes gens qui potentiellement seront dans 30 ans ou 40 ans les doyens de la Comédie française. Quand je les choisis, je choisis quelqu'un dont je veux qu'un metteur en scène dise « je veux absolument cette personne-là » pour son singulis et qu'en même temps, il soit capable de passer 30 ans au sein d'une troupe, avec ce que ça veut dire de conciliation, avec ce que ça veut dire d'esprit de troupe, voilà. Et que ça, il faut qu'il soit simule tout autant que singulis. Mais Molière en parle, oui, bien sûr.
En conclusion de cette série, j'ai lu que François Mauriac avait découvert Molière à l'âge de 47 ans. J'en ai 46, et je crois que je peux dire à peu près la même chose. J'ai croisé Molière au lycée, comme tout le monde, mais en vérité, je connaissais peu Molière. Et j'ai découvert une vie hors norme, faite de courage et de conviction, de compromis sans compromission, et une œuvre extraordinaire qui résonne toujours en nous, 4 siècles plus tard.
Et maintenant, place au théâtre !
Allez voir Molière au théâtre, allez à la Comédie française, et vous verrez que presque toutes ses pièces se terminent de la même manière. Jamais un acteur ne se retrouve seul sur scène à la fin. Tous les personnages de l'intrigue sont réunis et refont société malgré tout. C'est peut-être la signature de Molière. Dans ses pièces, on se moque des comportements ridicules, on pointe les outrances, on se ment, on s'invective, on triche. Mais à la fin, se dessine souvent une dimension de réconciliation. Simul et singulis, être ensemble en restant soi-même. Voilà peut-être une ligne d'horizon pour la société du XXIe siècle.
Qu'est-ce que vous emportez ?
Ceci, monsieur, c'est quelque chose qui n'appartient à personne. Plutôt qu'il appartient à tout le monde. C'est la vie de monsieur de Molière.
Molière, le chien et le loup. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Assistance éditoriale, Estelle Gap. Documentation sonore, Clary Monac. Reportage, Martine Abbat. Mixage, Julien Michel. Molière, le chien et le loup. Est un podcast original de France Inter avec la Comédie française.